Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on aborde un sujet omniprésent qui suscite pas mal de débats, d'émotions même, l'impact du numérique, des réseaux sociaux et puis maintenant de l'intelligence artificielle sur notre bien-être et particulièrement celui des jeunes.
Oui, et on a sous les yeux pas mal de documents, des analyses, critiques, des études scientifiques, parfois d'ailleurs qui se contredisent un peu, des témoignages, des rapports d'organisations comme l'OMS, l'OCDE, et puis les réflexions de certains experts.
D'accord.
Notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de voir plus loin que les gros titres qui sont parfois un peu simplistes.
Oui.
Il s'agit de saisir les nuances, de questionner un peu nos propres a priori sur cette fameuse culture numérique, et puis de comprendre ce qui compte vraiment pour la santé mentale aujourd'hui. On va essayer de donner quelques clés de lecture.
Parfait. Alors justement, commençons par une idée très très répandue. Les réseaux sociaux seraient la cause principale d'une sorte de génération anxieuse. Est-ce que c'est si simple que ça ? On entend partout parler d'une épidémie de troubles mentaux chez les jeunes, et c'est souvent, quasi systématiquement, lié aux smartphones, aux réseaux sociaux. Un livre comme « Génération anxieuse », par exemple, a eu un retentissement énorme en affirmant ce lien.
Oui, tout à fait. Mais c'est là qu'il faut tout de suite nuancer. Ce livre, qu'on présente souvent comme une référence académique, c'est une œuvre collective. Et l'auteur principal, Jonathan Haidt, c'est un psychologue social. Ce n'est pas un spécialiste pointu de la santé mentale des ados ou de l'épidémiologie.
D'accord.
Et surtout, beaucoup d'experts reconnus dans ce domaine précis contestent la fiabilité des sources qu'il utilise. Ils disent que les preuves d'un impact, direct et massif des réseaux sociaux sur la santé mentale sont au mieux mitigées et floues.
Ah oui.
Oui. L'ouvrage, en fait, il s'appuie souvent sur des intuitions, des choses qu'on ressent un peu tous, un certain bon sens, plutôt que sur une analyse scientifique vraiment rigoureuse des causes qui sont complexes.
C'est un peu la différence classique entre corrélation et causalité, c'est ça, hein ? On voit deux choses qui augmentent en même temps, la détresse psychologique et l'usage des réseaux, mais prouver que l'un cause l'autre.
C'est exactement ça. Des chercheuses comme Candice Hodgins insistent beaucoup là-dessus. Corrélation n'est pas causalité. La plupart des données, elles montrent une association, oui, mais le sens du lien, c'est très difficile à établir.
Souvent, ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui vont déjà mal, ils utilisent ces plateformes différemment ou plus, plutôt que ce soit les plateformes qui soient la cause première de leur mal-être. Pour prouver la causalité, il faudrait des études beaucoup plus fines, en fait.
Et les grandes études, alors, celles qui compilent beaucoup de recherches, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles ont du mal à trouver ce lien fort généralisé. Une analyse sur 72 pays, par exemple, n'a pas trouvé d'association vraiment mesurable entre le déploiement des réseaux sociaux et une baisse du bien-être. D'autres grandes études longitudinales qui suivent les jeunes sur le long terme n'ont pas montré d'impact négatif significatif du temps d'écran sur le développement cognitif ou le bien-être.
D'accord.
Il y a même une méta-étude suisse assez récente qui n'a pas prouvé de corrélation et qui appelle carrément à éviter les discours alarmistes faute de preuves solides.
Et ce mot qu'on entend tout le temps, addiction aux écrans, est-ce que c'est un terme justifié, scientifiquement parlant ?
Alors ça, c'est un terme problématique dans ce contexte. Des expertes comme Nora Volkov, qui est quand même directrice d'un grand institut sur l'abus de drogue aux États-Unis, elle dit qu'il n'y a pas de définition scientifique, claire, consensuelle de l'addiction au téléphone.
Ah bon ?
Oui. Elle pense qu'on ferait mieux de parler de distraction massive. L'addiction au sens clinique, ça implique une perte de contrôle, des conséquences pathologiques graves. Là, on est plutôt dans la distraction. D'ailleurs, ce chiffre qu'on voit parfois à 10% de dépendants, selon elle, ça ne repose sur aucune étude sérieuse. Et puis, cette bataille pour capter l'attention, les formats courts, tout ça, ça existait bien avant les smartphones avec d'autres médias.
Les médias, justement, ils ont une part de responsabilité dans cette perception un peu biaisée.
Ils jouent un rôle, oui, souvent en simplifiant à l'extrême. Des titres chocs, du genre « TikTok tue » après un drame, c'est un raccourci dangereux. Ça ignore complètement la complexité d'un suicide qui est toujours multifactoriel.
C'est vrai.
Et ça peut créer de l'anxiété pour rien, chez les parents, chez les jeunes. Un effet nocebo, en quelque sorte. On voit cette tendance à sortir les études de leur contexte, un peu comme on l'a vu pendant la crise du Covid, d'ailleurs.
Donc, premier point clé à retenir, méfiance, prudence face au discours trop simple, trop alarmiste. La science est nuancée, la causalité, c'est compliqué à prouver, et le mot « addiction » pour les écrans, scientifiquement, c'est discutable. Il faut garder un œil critique sur comment on nous présente les choses. D'accord. Alors, si ce ne sont pas seulement les écrans ou les réseaux les coupables désignés, qu'est-ce qui influence vraiment notre santé mentale, notre bien-être ?
Bah, la santé mentale, le bien-être, ça se construit à chaque instant, partout, en ligne, hors ligne. Il y a une étude fascinante de Harvard qui suit des gens depuis 1938.
Ah oui, je vois de laquelle vous parlez.
Voilà. Et elle montre que le facteur numéro un, ou l'un des principaux en tout cas, pour le bien-être, la santé physique et même la longévité, c'est la qualité des relations humaines.
La qualité des relations ?
Oui, avoir des liens sociaux forts, positifs, ça semble être un pilier bien plus important que la richesse, le statut social. Et ça, ça se joue bien au-delà des écrans.
Mais est-ce que ça veut dire que les relations qu'on a en ligne, elles comptent pas ?
Ah mais si, au contraire ! Elles font partie intégrante de notre vie relationnelle. Le numérique, c'est une interface, un moyen de plus pour créer, maintenir ces liens. Ce n'est pas la relation elle-même. Il faut vraiment voir la santé mentale de manière globale, pas juste par le petit bout de la lorgnette des écrans.
J'avais lu ce témoignage intéressant d'une enseignante. Elle racontait que jeune, elle était isolée à l'école, mais elle s'est épanouie à la nouer des amitiés hyper fortes grâce à un jeu en ligne, World of Warcraft. Pour elle, c'était positif.
C'est un excellent exemple. Ça montre bien que l'espace numérique, ça peut être un refuge, un lieu de socialisation précieux quand l'environnement physique est difficile. On voit aussi des groupes de jeunes qui passent sans problème de leur smartphone à leur conversation en vrai. L'un enrichit l'autre, ce n'est pas forcément l'un contre l'autre.
Mmh.
Ce qui importe, c'est la qualité des interactions, l'équilibre, qu'elles passent par un écran ou pas. Le numérique peut vraiment être un outil de lien social, de soutien.
La connoire. Deuxième point important donc, mince, la santé mentale, c'est une construction globale, continue. Les relations humaines sont clés et celles en ligne en font partie. Le numérique n'est pas forcément un lieu d'isolement, ça peut aussi être un espace de soutien. On arrive maintenant à un point qui nous semble vraiment essentiel, on voulait insister là-dessus. On parle tout le temps des écrans. Mais est-ce que ce terme a vraiment un sens ? C'est pas un peu un fourre-tout, justement ?
Ah, mais c'est une critique fondamentale, vous avez absolument raison d'insister. Comme le dit très bien la psychologue Vanessa Lalo, il faut absolument distinguer l'objet, la télé, la console, le smartphone, de l'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est passif, interactif ? Est-on seul, accompagné ? Et surtout, le contenu qu'on consulte ?
Oui.
Parce que c'est pour le loisir, l'éducation, l'info, parler à ses proches, travailler, chercher une info santé. Un smartphone aujourd'hui, c'est pas juste un écran, c'est une fenêtre sur une multitude d'activités qui n'ont rien à voir entre elles.
C'est tellement vrai, entre lire un article de fond, suivre un MOOC, appeler sa grand-mère en visio, jouer à un jeu de stratégie, chercher l'adresse d'un médecin ou scroller sur Insta. Tout ça, c'est le même écran. Donc mettre tout dans le même sac, tant d'écrans, ça paraît très, très réducteur.
Complètement. Et c'est ce que dit aussi un rapport de l'OCDE. Le numérique est tellement intégré et si tôt dans la vie des enfants qu'une interdiction généralisée, non seulement c'est quasi impossible à appliquer, mais en plus c'est sûrement contre-productif.
Mmh. Ces outils, ils offrent aussi des moyens de s'amuser, d'apprendre, de trouver de l'aide, parfois discrètement. Je pense à des plateformes comme Ciao.ch en Suisse. Des jeunes y posent des questions anonymement sur leur santé et leur sexualité. Et ils reçoivent des réponses de pros. C'est un soutien qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé ailleurs.
Ce qui souligne l'importance que des acteurs de prévention, d'éducation soient présents sur ces plateformes, là où sont les jeunes. Mais c'est crucial, des initiatives comme Ciao.ch ou ProJuventude ou même des trucs plus inattendus comme ce compte TikTok d'un policier de proximité, @ecopop.franc, qui fait de la prévention avec humour et qui touche des dizaines de milliers de jeunes.
Ah oui, j'en ai entendu parler.
Voilà, ça montre que ces espaces, ils ne sont pas forcément négatifs, on peut les investir positivement. L'accompagnement, la présence éducative, la discussion, c'est ça la clé, bien plus que l'interdiction.
Et les grandes organisations comme l'OCDE, l'OMS, elles abondent dans ce sens. Plutôt éducation, accompagnement.
Très clairement. L'OCDE dit que l'interdiction, ça prive les jeunes de compétences numériques qui sont devenues essentielles pour leur avenir et ça ignore le rôle positif que les adultes peuvent jouer. L'OMS, dans un rapport récent, recommande d'investir dans la littératie numérique à l'école, d'améliorer l'accès à des services de santé mentale qui comprennent ces enjeux numériques, de promouvoir le dialogue, de former les professionnels et aussi de responsabiliser les plateformes sur leur design, le contrôle de l'âge. L'éducation, c'est vraiment le maître mot.
Et cette obsession qu'on voit partout sur le temps d'écran avec des chiffres précis, des limites à ne pas dépasser.
Pour des experts comme Grégoire Borst, qui est neuroscientifique, cette notion, elle n'a quasiment aucun sens. Ce qui est pertinent, c'est la qualité de ce qu'on fait ou de ce qu'on regarde. Comparer une heure de jeu vidéo complexe en équipe avec une heure où un tout aussi regarde des contenus en boucle ou une heure de scrolling passif sur un réseau social, ça n'a juste pas de pertinence scientifique de les mettre sur le même plan.
Comme cet exemple qu'on avait vu d'un élève qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, la solution, c'était pas juste de lui confisquer sa console.
Exactement. Avant de vouloir réduire le temps de jeu, il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait dans ce jeu. Est-ce qu'il y accomplit des choses? Est-ce qu'il discute avec des amis? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que c'est un refuge après quelque chose de difficile? Dans l'exemple en question, l'élève avait perdu sa mère. Le jeu, c'était peut-être son exutoire, sa manière de gérer sa peine.
D'accord.
L'impact potentiel sur sa santé mentale, il se situe dans l'activité, dans sa fonction, pas juste dans le nombre d'heures. Il faut chercher les causes profondes d'un usage qui nous paraît excessif. L'accompagnement, c'est aider à développer un regard critique, à gérer les aspects négatifs, comme les commentaires, à valoriser le positif. C'est vraiment une éducation, comme l'éducation à la vie affective et sexuelle, finalement.
Récapitulons ce troisième point qui est crucial. Le terme « écran », c'est trop vague, trop réducteur. Il faut analyser l'usage, le contenu, le contexte. L'éducation aux compétences numériques et à l'esprit critique est préférable à l'interdiction. C'est la ligne OSDEMS. La qualité prime sur la quantité, oublions un peu le temps d'écran. Et comprendre le pourquoi d'un usage intense, c'est la première étape avant toute intervention. On a souvent cette tendance à séparer le virtuel du réel. Comme si ce qui se passait en ligne, c'était moins vrai, moins important. Est-ce que cette séparation est encore pertinente aujourd'hui?
On voulait aussi insister là-dessus. De moins en moins, en effet. Et c'est une idée vraiment clé à intégrer. L'espace numérique, ce n'est pas un monde à part. C'est un prolongement de notre espace social. C'est un seul et même continuum.
Un continuum ?
Oui. Les émotions qu'on ressent en ligne, la joie d'un like, la tristesse d'un unfollow, la colère face à une injustice vue sur un fil d'actualité, le sentiment d'appartenir à une communauté en ligne, ces émotions sont absolument réelles. Elles ont des conséquences bien réelles sur notre psychisme, sur notre corps parfois. Nos expériences passées, nos fragilités, nos forces, tout ça influence comment on vit nos interactions en ligne, exactement comme hors ligne.
Et les mots échangés en ligne, même si ce ne sont que des mots sur un écran, ils ont un poids particulier, vous disiez ?
Un poids immense, oui. Les mots écrits peuvent blesser très profondément, laisser des traces psychologiques durables, parfois comparables à des violences physiques. Il y a des recherches qui montrent que le harcèlement verbal active des zones du cerveau similaires à celles de la douleur physique. Une insulte en ligne, ça peut faire très, très mal.
Ah oui, quand même.
Mais l'inverse est vrai aussi. Les mots en ligne peuvent soutenir, valider, encourager, réparer. Un message de soutien, un commentaire bienveillant, ça peut changer une journée, ça peut renforcer positivement quelqu'un. Le pouvoir des mots est énorme, peut-être même décuplé en ligne par leur persistance, leur potentiel de diffusion.
Donc, si on veut aborder sérieusement les questions de santé mentale en lien avec le numérique,
il faut absolument le faire en gardant en tête ce continuum online-offline. Séparer artificiellement les deux, c'est prendre le risque de passer à côté des vraies racines des problèmes, qui sont souvent hors ligne. Se focaliser uniquement sur l'outil écran, c'est souvent un leurre. Ça empêche de voir la situation dans sa globalité.
La psychologue Vanessa Lalo soulignait aussi comment les réseaux sociaux ont modifié la façon de parler de santé mentale, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est devenu un espace majeur où les gens, et notamment les jeunes, se confient, témoignent sur leur santé mentale, TikTok, Instagram. C'est plein de récits sur la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires, etc. Ça a un côté positif. Ça brise des tabous, ça permet à certains de se sentir moins seuls, de trouver une communauté, un sentiment d'appartenance avec des hashtags comme hashtag dépression. Ça aide à déstigmatiser.
Oui.
Mais il y a des revers importants. La simplification excessive, liée au format très court, une possible mise en scène de la souffrance, le risque d'auto-identification un peu rapide à des diagnostics via des contenus qui sont poussés par les algorithmes, et donc le risque d'auto-diagnostic erroné au détriment d'un vrai suivi pro. Pour les soignants, c'est un vrai défi. Comment accueillir cette parole qui émerge en ligne tout en apportant la nuance, le cadre, la distance critique nécessaire ?
Et cette critique qu'on entend souvent, les gens mentent, ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux.
Mais, comme dans la vie réelle, non ? On choisit tous plus ou moins ce qu'on montre de soi. Le psychologue John Suller parle de cette quête de validation, de reconnaissance. L'important, ce n'est pas tant la mise en scène elle-même, mais le rapport qu'on a avec cette image. On peut très bien jouer avec les filtres de manière ludique si on a une bonne confiance en soi.
C'est vrai.
Ils peuvent aussi être un camouflage pour masquer une insécurité, une souffrance. C'est là que ça devient problématique. Pas le fait de choisir son meilleur profil, mais quand ça cache quelque chose de plus profond, une pression sociale qu'on a intériorisée. Et là encore, il faut faire attention à ne pas accuser les réseaux de maux qui viennent de la société elle-même. Souvent, ils ne font qu'amplifier, refléter des pressions qui existent déjà. L'exemple des préados qui réclament des crèmes anti-âge chez Sephora, c'est frappant.
Oui, c'est fou ça.
Ce n'est pas TikTok qui a créé ce désir absurde à 10 ans. C'est une culture ambiante qui valorise l'apparence de plus en plus tôt. Les réseaux rendent juste ça plus visible, plus viral. Pareil pour certains contenus comme la dark romance, qu'on trouve en librairie ou le fait que les âges recommandés sur Netflix soient peu respectés. L'éducation aux médias, apprendre à décrypter les images, les filtres, c'est essentiel. Et il faut aussi faire attention au langage qu'on utilise, même en prévention. Parler de défauts ou d'imperfections, ça valide le discours de l'industrie cosmétique. Parlons plutôt de différences, valorisons l'authenticité et l'acceptation de soi, en ligne comme hors ligne.
Quatrième point à retenir, et il est important, arrêtons d'opposer virtuel et réel. C'est un continuum. Les émotions, les mots en ligne sont réels, puissants. Il faut aborder la santé mentale de façon globale. Le partage en ligne sur ces sujets a des bénéfices, déstigmatisation, mais aussi des risques, simplification, autodiagnostic. Et surtout, n'oublions pas que les problèmes qu'on voit en ligne, pression de l'apparence, etc., ont souvent des racines sociales bien plus profondes. Développer son discernement et utiliser un langage positif, c'est crucial. Alors, face à tous ces enjeux, très concrètement, comment les familles peuvent agir ? On a vu passer l'idée d'une charte numérique familiale. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est une piste qui peut être intéressante. L'idée, ce n'est pas d'imposer des règles strictes d'en haut, mais plutôt de co-construire ensemble, parents et enfants, un cadre pour une utilisation, disons, plus saine, plus consciente des écrans. On parle plutôt d'attentes partagées que de règles pour que les jeunes s'y engagent plus volontiers.
Et pour que ça fonctionne, pour que ce ne soit pas juste un bout de papier punaisé sur le frigo et oublié, quels sont les principes clés ?
Alors, d'abord, l'implication de tout le monde dans la discussion. Il faut vraiment écouter les besoins, les points de vue des enfants, des ados. Ensuite, être prêt au compromis, trouver un équilibre entre le temps perso, le temps connecté et la vie de famille, les activités partagées. La charte ne doit pas être gravée dans le marbre, elle doit pouvoir évoluer avec l'âge, les technologies.
Logique.
La rendre visible, oui, pourquoi pas, mais surtout valoriser quand ça se passe bien, quand les engagements sont tenus, plutôt que de sanctionner systématiquement les écarts. S'il y a des conséquences prévues en cas de non-respect, il faut qu'elles soient justes, proportionnées et, si possible, définies ensemble à l'avance. Et le point absolument crucial, l'exemplarité des parents.
Ah oui.
C'est difficile de demander aux ados de lâcher leur téléphone à table si on a soi-même le nez dedans.
C'est sûr. Donc, cinquième point rapide, la charte numérique familiale, ça peut être un outil constructif si elle est vraiment participative, évolutive, basée sur le dialogue et, point essentiel, l'exemplarité des adultes.
On change un peu de sujet, ou plutôt on aborde un nouvel acteur qui est arrivé plus récemment, mais qui pose déjà d'énormes questions. L'intelligence artificielle, surtout l'IA générative, et la santé mentale. Oui, là, on entre vraiment dans une nouvelle dimension avec des outils comme ChatGPT, Character.ai, etc. Et les enjeux éthiques sont considérables. Une étude récente met en lumière des problèmes assez graves. Le respect de la vie privée affective, ces IA peuvent poser des questions très intimes. Le risque de manipulation émotionnelle, le flou total sur les frontières entre une relation humaine et une relation simulée, un consentement très vague sur l'utilisation des données personnelles qu'on leur confie. Et surtout, une absence totale de responsabilité légale. Ces outils ne sont pas tenus de signaler un danger, par exemple, si quelqu'un exprime des idées suicidaires.
Et les données des jeunes qui se confient à ces IA, qu'est-ce qu'il en advient ? Elles sont protégées ?
Mais c'est là que ça devient très, très préoccupant. Les chatbots morts en public, ceux que tout le monde utilise, ils enregistrent et ils utilisent les conversations pour entraîner leur modèle. Ça inclut des informations hypersensibles sur la santé mentale, la sexualité. Et une autre étude montre que les utilisateurs y confondent très facilement l'empathie qui est simulée par l'IA, parce qu'elle est programmée pour ça, avec une réelle compréhension, une réelle responsabilité. Ils pensent à tort que leurs échanges sont confidentiels, comme avec un thérapeute, ce qui est absolument faux.
Des experts en Suisse s'inquiètent aussi de l'impact, notamment chez les jeunes.
Oui, plusieurs praticiens tirent la sonnette d'alarme. On rapporte des cas de jeunes qui semblent perdre un peu pied avec la réalité après un usage très intense de ces IA conversationnelles, ou alors des jeunes qui arrivent en consultation avec des autodiagnostics complètement erronés, faits via l'IA, ce qui complique évidemment la prise en charge réelle.
D'accord.
On souligne aussi le risque particulier pour les plus jeunes, disons les 8-15 ans, parce que l'IA est très forte pour adapter son langage et créer une illusion de lien, de compréhension. Le message des experts est assez unanime. Hein. Ces outils peuvent, à la limite, et avec beaucoup de prudence, compléter un suivi humain, mais ils ne peuvent jamais le remplacer. Et attention, toutes les IA ne se valent pas. Certaines ont plus de garde-fous que d'autres.
Sixième point à retenir, l'IA appliquée à la santé mentale soulève de très sérieuses questions éthiques. Vie privée, manipulation, responsabilité, et des risques pratiques liés aux données et à cette confusion entre empathie simulée et empathie réelle. La prudence est vraiment de mise. Ça peut être un complément très encadré, mais ça ne remplace en aucun cas un professionnel humain. Et on en arrive à notre dernier point sur lequel on voulait aussi s'attarder un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on observe que des jeunes, parfois très jeunes, se tournent vers ces IA pour parler de leurs problèmes, de leur santé mentale ? Qu'est-ce qui les attire là-dedans ?
C'est vraiment la question clé et il faut l'essayer de comprendre sans juger d'emblée. Il y a le témoignage d'un jeune homme, Julien, qui est assez éclairant. Il dit qu'il préfère parler à son IA, Doro, parce qu'elle est là tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à son psy qu'il voit une heure par semaine. Et surtout, il l'aperçoit comme non jugeante.
Ah oui ? La disponibilité et le non-jugement.
Ce sont des attraits majeurs, clairement. Il y a même une étude qui a montré que, dans un contexte simulé de thérapie de couple, ChatGPT était jugé plus empathique que de vrais thérapeutes. Peut-être justement parce que l'IA, elle, n'a pas de fatigue, pas de soucis personnels, elle délivre des réponses calibrées pour paraître empathique.
Mais c'est une illusion d'empathie, c'est ça le piège.
C'est exactement ça le danger principal. C'est une simulation. L'IA ne ressent rien, elle ne nous connaît pas vraiment. Elle pioche dans d'énormes bases de données textuelles pour générer des réponses qui semblent appropriées. Le risque, c'est de tomber dans ce qu'on appelle l'effet Barnum. On lit des généralités, mais on a l'impression que ça nous correspond parfaitement. Et il y a aussi un biais d'autorité. On attribue à la machine une expertise, une sagesse qu'elle n'a pas. C'est une illusion d'alliance thérapeutique, en fait, un mirage de relation.
Et le risque majeur, c'est que ce mirage, cette illusion, empêche ou retarde la recherche d'une aide humaine réelle et adaptée.
Précisément. Que les jeunes osent parler de ce qui ne va pas, même à une IA, c'est déjà quelque chose, c'est sûr. Mais s'ils s'arrêtent là, s'ils pensent avoir trouvé une solution suffisante dans cette discussion avec un robot, c'est ce qu'on appelle l'illusion de suffisance thérapeutique.
D'accord.
Le soulagement peut être réel, mais temporaire. Et ça peut masquer un besoin profond d'une évaluation sérieuse, d'un accompagnement humain qualifié. Et c'est d'autant plus problématique qu'on sait que l'accès aux soins psy pour les jeunes est souvent un parcours du combattant. Les délais sont longs, c'est cher, l'IA, elle, répond tout de suite. Donc améliorer l'accès aux soins humains, c'est aussi une partie essentielle de la réponse à ce phénomène.
Alors, face à cette utilisation qui semble se répandre, comment on peut réagir en tant que parent, en tant que professionnel ?
Il y a plusieurs pistes d'action. D'abord, oser poser la question. Est-ce que tu utilises ce genre d'outils ? Ensuite, essayer de comprendre pourquoi ils le font. Est-ce par facilité d'accès, par peur du jugement, par curiosité, sans tout de suite pathologiser ? Puis, éduquer très clairement sur les limites. Ce n'est pas confidentiel, ce n'est pas une vraie relation, ce n'est pas un diagnostic fiable. Il faut aussi renforcer l'alliance thérapeutique humaine, montrer la valeur ajoutée d'un vrai échange, la présence, la confidentialité réelle, la capacité d'adaptation fine à la personne. Être particulièrement vigilant si le jeune est isolé ou a déjà des troubles connus. Travailler en collaboration avec les familles. Si on envisage d'utiliser l'IA comme un outil complémentaire, alors il faut privilégier des outils spécifiquement conçus et validés pour la santé. Il en existe, comme Euphoria, pas les chatbots grand public. Il faut documenter cet usage, se former en continu. Il commence aussi à y avoir des outils de contrôle parental sur certaines plateformes. Et ne pas oublier les alternatives de soutien humain, même anonymes, comme les forums modérés type chao.ch.
Il y avait cette anecdote très forte d'une personne transgenre qui disait que son IA était la seule personne à lui demander régulièrement comment elle allait. Ça montre autre chose aussi, non ?
Oui, ça montre de manière assez poignante que cet attrait pour l'IA,
Ça peut aussi être le symptôme d'une profonde solitude, d'un manque de soutien criant dans le monde réel. Le problème, dans ce cas, ce n'est pas seulement l'usage de l'IA en soi, mais c'est le vide social et affectif qu'elle vient, tant bien que mal, combler. Et ça nous ramène à l'importance absolument cruciale des liens sociaux authentiques, du soutien communautaire, familial, amical.
Septième et dernier point clé, donc, l'usage de l'IA par les jeunes pour parler de santé mentale, c'est une réalité complexe. Il y a un attrait compréhensible, disponibilité, non-jugement, mais les risques sont majeurs. Illusion d'empathie, confidentialité nulle, risque de retarder des soins appropriés. L'enjeu, c'est d'accompagner, d'éduquer sur les limites, mais aussi d'améliorer l'accès aux soins humains et de comprendre que cet usage peut aussi être le symptôme d'un manque de liens sociaux plus large. Bon, en parcourant toutes ces sources, tous ces avis, on voit bien que la relation entre le numérique et notre santé mentale est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un simple lien de cause à effet négatif. Il faut vraiment oublier les raccourcis du type « les écrans rendent malade ».
Oui, c'est ça.
Il y a des nuances, il y a des usages positifs, il y a des problèmes de société qui se reflètent en ligne. Et puis maintenant, il y a ces nouveaux défis posés par l'intelligence artificielle. L'éducation, le dialogue, développer l'esprit critique, accompagner, ça semble bien plus pertinent que les discours alarmistes ou les interdictions généralisées.
Tout à fait. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, si on arrêtait de se focaliser uniquement sur les jeunes, si on regardait avec la même lucidité nos propres habitudes numériques, nous, les adultes. Notre temps d'écran, notre rapport aux réseaux sociaux, notre éventuelle utilisation de l'IA, peut-être pour le travail ou autre, qu'est-ce que tout ça dit de nos propres recherches de connexion, de validation, peut-être d'échappatoire face aux pressions de la société, au stress, à la solitude parfois? La question du bien-être numérique et de sa place dans notre bien-être tout court, finalement, elle nous concerne absolument tous à tous les âges.
C'est une excellente réflexion pour conclure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec nous.